Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik und Kultur-Sendung. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Bonsoir Kinshasa, bonsoir Lomé, Bamako, Abidjan, bonsoir à toute l'Afrique. Merci de nous suivre en direct sur Radio Kanal K dans son programme panafricain Fenêtre sur l'Afrique. Les Congolais ont manifesté aujourd'hui à Zurich pour dénoncer les graves violations des droits de l'homme au Congo à quelques jours de la tenue dans ce pays du sommet de la francophonie. Fridé Moulongo, un journaliste écrivain congolais qui vient de sortir un livre intitulé « En toute liberté » sera notre invité. Le peuple togolais a commémoré dans le sang le 22e anniversaire du 5 octobre 90, jour du soulèvement populaire au Togo pour l'avènement de la démocratie. Et ceci pendant que ce pays traverse depuis quelques mois une zone de turbulence à travers des manifestations de rue. Quelles leçons tirées après les mouvements du 5 octobre? Monsieur Tino Agbelenko, un des acteurs de ce mouvement, est également l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Et bien sûr, sous l'œil vigilant de Michel Pouléo, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudjordi, Fabi Kwasi, Augustin Amenga, Lucien Hunkali constituent l'équipe de production. Fenêtre sur l'Afrique est réalisée et présentée par Sylvain Amos. Et pour rentrer dans le développement des actualités politiques africaines, de ce soir, amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, je vous propose de retenir quand même ce propos du feu président Thomas Sankara qui dit ceci, je cite, « L'esclave qui ne veut pas se libérer ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Amis fidèles auditeurs, bienvenue au programme et dans quelques instants, retrouvez notre éditorial de la soirée avec Romain Koudjordi, notre collaborateur de bien et de bonne.
Conciliation en Côte d'Ivoire, mon œil. La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Le 11 avril de l'an 2011, Laurent Gbagbo a été chassé du pouvoir par les forces à Alassane Ouattara avec l'appui direct de la France sous Sarkozy. Beaucoup ont cru en la capacité de rassembleur de Ouattara, qui se revendique d'ailleurs de l'héritage politique du feu Félix Houphouët-Boigny, chantre de la paix, véritable francophile. Mais c'est méconnaître l'homme animal politique qui est Ouattara. Après un an de prise de pouvoir, non seulement la paix, tant voulue, n'a pas droit de citer en Côte d'Ivoire, mais la chasse à l'homme et les règlements de compte nous font croire le pire pour ce pays. En effet, une quarantaine de militaires pro-Gbagbo doivent être jugés dans les prochains mois pour leur participation présumée à des crimes commis pendant la crise post-électorale ivoirienne. Le premier de ces procès s'est ouvert le 2 octobre. Il concerne l'ancien chef de la garde républicaine, Bruno Dogo-Blé. Depuis mardi 2 octobre, ils sont 5 militaires à affronter leur juge dans ce qui s'annonce comme le premier des grands procès de la crise post-électorale. En tout, selon le procureur militaire Ange Kessi, une quarantaine de militaires pro-Gbagbo seront prochainement jugés dans une série de procès, notamment pour séquestration, suivi de meurtre, viol et vol. À Fenêtre sur l'Afrique, il nous est aussi important que justice soit faite surtout pour la mémoire des innocents tués par la soif effrénée du pouvoir entre les deux belligérants. Mais seulement nous sommes dans le regret de constater que dans le pays du vieux, c'est plutôt une vengeance inouïe d'un seul camp. Un règlement de compte sans merci, ni repris qui s'opère. Sinon, comment comprendre que sur le banc des accusés et sur la liste des probables incriminés dans la crise post-électorale, aucun partisan de Ouattara et Soro ne soit inquiété? C'est d'autant plus révoltant que nous sommes obligés de croire que Ouattara, au lieu d'opter pour la réconciliation, se laisse plutôt entraîner par la soif de vengeance, véritable prémisse à l'effritement de la Côte d'Ivoire. La juste paix ou la justice, si elle doit exister, doit être impartiale et indépendante et non une poudre aux yeux ayant pour impulsion dans les rangs des plus forts. Que la paix profonde et la réconciliation digne de ce nom est droit de cité en Côte d'Ivoire.
Direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, la liberté d'expression et les droits des humains sont souvent bafoués en Afrique, malgré des campagnes de sensibilisation et de lutte que mènent plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme. Le phénomène perdure toujours. En Afrique, plusieurs milliers de femmes sont victimes de viols, dont notamment en République démocratique du Congo. Freddy Molongo, journaliste congolais, nous présente ce soir en bref son nouveau livre intitulé « En toute liberté » paru ce mois de septembre aux éditions Edit Livre à Paris. Nous le recevons tout de suite en direct depuis Zurich. Freddy Molongo, bonjour.
Bonjour cher ami Amos.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes l'auteur de ce nouveau livre intitulé « En toute liberté ». On sait qu'en Afrique, et plus particulièrement dans votre pays, la République démocratique du Congo, la liberté d'expression et celle des humains sont des sujets tabous. Et même avec des efforts que mènent des ONG internationales, et ce fléau perdure. Et en quoi votre livre « En toute liberté » qui dénonce la liberté d'expression en Afrique serait-il utile pour enrayer ce fléau, Freddy Molongo?
En tout cas, merci pour la question. C'est un livre témoignage. Vous savez que en tant que journaliste, parfois, on n'a pas le temps, lorsqu'on est sur le terrain, d'avoir un moment de recul par rapport aux événements qui s'y passent. C'est un livre témoignage pour tout l'envoi de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ne peuvent pas parler parce que la liberté d'expression est inexistante en RDC, toutes ces personnes qui sont mortes, parce qu'aujourd'hui on dénombre plus de 12 millions de morts en République démocratique du Congo, tous ces déplacés des guerres à l'Est, qui sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, toutes ces personnes qui meurent de faim alors que la République démocratique du Congo regorge des potentialités importantes. En tout cas, c'est à travers toutes ces personnes-là, connues et inconnues, célèbres et anonymes, que j'ai essayé d'écrire ces livres en disant ma vérité, en fait, par rapport à ce que je vois, ce que je constate, en apostrophant les uns, en questionnant les autres, mais aussi en se projetant vers l'avenir.
Oui, Freddy Molongo, et qu'est-ce qui explique selon vous la recrudescence de la violence des droits de l'homme en Afrique et notamment au Congo, votre pays?
Je crois que la République démocratique du Congo souffre d'un problème, c'est qu'il n'est pas un état de droit aujourd'hui. Cela fait plus de 11 ans que Joseph Kabila est à la tête du pays. Il nous a promis la paix, mais la paix n'y est pas. Et étant donné que l'Est de la République démocratique du Congo regorge de ressources minières qui sont convoitées, et donc ça attise comme ça tous les seigneurs des guerres, tous les multinationaux qui veulent acquérir ces minéraux au moindre prix, au moindre coût, sans toutefois que cet argent puisse bénéficier à l'État, mais puisse bénéficier à quelques-uns. Et donc, c'est là que, en conséquence, on a cet effet qui est assez récurrent, c'est que il y a les seigneurs des guerres qui sèment la terreur, qui tuent, qui violent, qui pillent en toute impunité. Et vous savez que il y a plusieurs rapports Nations Unies, notamment les rapports Mapping, qui met en cause toutes ces milices qui sèment la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Et il n'y a pas très longtemps encore, les M23 est né pour continuer à piller cette région.
Oui, Freddy Moulongo, je le disais tantôt que vous êtes journaliste et auteur de ce nouveau livre que vous venez de sortir ce mois de septembre à Paris, et le livre est intitulé « En toute liberté ». Alors, vous dénoncez la liberté d'expression en Afrique et particulièrement en RDC, votre pays. Vous êtes aussi actuellement en Suisse, et pour soutenir les manifestants des Congolais vivant sur le sol helvétique. Alors, ces Congolais expriment encore leur ras-le-bol, et aujourd'hui à Zurich, à travers une manifestation. Alors ces Congolais pensent également que la RDC ne répond pas aux normes. Et pour abriter le sommet de la francophonie le 14 octobre prochain à Kinshasa. Alors Freddy Moulongo, comment jugez-vous la présence officielle du président Hollande au cours de ce sommet, d'autant plus que le président Joseph Kabila est réélu dans des conditions très controversées, et entraînant le pays dans une crise profonde, Freddy Moulongo?
Oui, cher Amos, je crois qu'il y a beaucoup de péripéties par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je dois préciser que je suis quand même le journaliste congolais qui est accrédité aux Nations Unies à Genève. Donc, je suis les problèmes des droits de l'homme. En ce qui concerne cette prise de conscience des Congolais qui refusent le sommet de la francophonie qui doit avoir lieu à Kinshasa du 12 au 14 de ces mois, je pense que je suis tout à fait d'accord avec eux, parce que il ne faut pas seulement résumer l'affaire par rapport à la présence de François Hollande. Je crois que le président français a été mal conseillé, et par Yamina Benguigui, qui est la ministre de la francophonie, mais surtout par Abdou Diouf, qui est le secrétaire général de l'Organisation internationale des Nations Unies. Et vous savez très bien que à chaque fois qu'un pays n'a pas respecté les principes cardinaux de la francophonie, ce pays-là n'a pas abrité les sommets de la francophonie. Ça a été le cas avec la déclaration de Bamako, ça a été le cas avec Madagascar, qui devait normalement abriter le sommet de 2010, mais qui s'est fait ici en Suisse, à Montreux. Et la République démocratique du Congo, tout le monde sait qu'il y a eu des élections frauduleuses et que Joseph Kabila est un président mal élu. Il a fait un dette électoral. Or, qu'est-ce qui fait que Abdou Diouf, qui a récusé les autres pays pour abriter le sommet de la francophonie, accepte aujourd'hui que ce sommet ait lieu en République démocratique du Congo? En fait, c'est un prime à l'imposture, prime à l'usurpation, mais la francophonie a ses principes, et ses principes est violé par le secrétaire général lui-même. Alors, la présence de François Hollande, je crois que il est tiraillé, il a été tiraillé entre ne pas y aller et y aller. Et je pense qu'il faut qu'on soit aussi conscient que la France voit ses intérêts aussi. Il y a les minerais du Congo qui sont convoités, donc la France doit trouver aussi sa part, étant donné que les Chinois ont la grappe par rapport aux minerais du Congo, les États-Unis également, etc., la Belgique. Donc, tous ces pays essayent quand même de faire en sorte que le Congo soit uniquement la vache à lait au niveau international, sans se préoccuper des douleurs, des morts congolais. Nous avons 12 millions de Congolais qui sont morts aujourd'hui pour rien, et ces morts-là, on n'en parle pas. Et donc, que les Congolais de la Suisse manifestent à Zurich leur mécontentement, qu'ils réfutent ce sommet qu'ils appellent eux-mêmes les sommets de la francophonie par rapport au pouvoir de Kinshasa, moi je crois qu'ils ont tout à fait raison de réfuter cela. Et je pense qu'il y a une sorte de complot international par rapport à la République démocratique du Congo. Il y a un énorme état, un silence vraiment glacial par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, simplement parce que c'est un pays riche, il y a des minéraux.
Bien sûr. Alors, Frédéric Moulongo, la présence de François Hollande à ce sommet de la francophonie à Kinshasa représente pour vous quelque chose de grave, c'est ça, Frédéric Moulongo?
Oui, mais je pense que c'est que Joseph Kabila n'a pas pu réussir avec les élections du 28 novembre 2011. Va peut-être l'avoir avec les sommets de la francophonie, parce que il y aura légitimation d'un pouvoir illégitime et illégal. Et ça, aucun démocrate, qu'il soit congolais, chinois, européen ou américain, n'est pas accepté cela. Nous voulons tous que nos pays soient démocratiques, et dans la démocratie, il y a des principes, et lorsqu'on respecte ces principes, on est appuyé. Lorsqu'on ne les respecte pas, qu'est-ce qui fait que Joseph Kabila, qui a fait un hold-up électoral, peut être soutenu aujourd'hui? C'est qu'il y a des intérêts qui dépassent les communs des mortels que nous sommes. Et c'est là que nous devons tous être vigilants pour que des situations pareilles ne continue pas à se répéter, parce que on ne peut pas d'un côté avoir une démocratie à la tête du client. Et je crois que l'Afrique, si elle veut se développer, nous croyons à la démocratie, nous croyons à ses principes et en ses valeurs, et il n'est pas du tout question que la francophonie, qui a des valeurs cardinaux, que ces valeurs-là soient bafouées, simplement parce que il faut arriver à servir tel ou tel, à légitimer tel ou tel.
Frédéric Moulongo, revenons encore une fois pour parler de votre livre En toute liberté, qui dénonce la liberté d'expression en Afrique et notamment au Congo. Vous voulez que tout le monde ait le même droit, et c'est tout à fait normal. Et alors, quelle est votre vision sur l'avenir de l'Afrique? Et rappelons quand même que le Mali est en scission, la Côte d'Ivoire ne finit pas par solder les règlements de compte, et le Togo est actuellement en ébullition, Frédéric Moulongo.
Oui, mais je pense que pour que l'Afrique aille de l'avant, il faut certes la démocratie, avec des dirigeants qui sont élus normalement au suffrage universel, mais il faut aussi qu'on fasse très attention que nos États impriment la laïcité même des nations. C'est-à-dire que les religions ne prennent pas trop les devants par rapport à la République. Que la religion, bon, qu'on soit une religion catholique, protestante, musulmane ou hindouiste ou bouddhiste, que ces religions-là ne soient pas des religions d'État, ou que ces religions n'influent pas trop sur les affaires de l'État. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que on voit de plus en plus, par exemple, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, qui est coupé en deux, alors que c'est un pays qu'on disait que c'est un pays stable il y a encore une dizaine d'années, et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une sorte de balkanisation des faits. Le pays est coupé en deux parce que les autres veulent, les djihadistes et salafistes veulent imposer la charia, etc. etc. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention à cela. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, il faut aussi être très vigilant. Hein, on sait très bien que Alassane Ouattara est revenu au pouvoir grâce à la France qui s'est faufilée par rapport à à une résolution des Nations Unies. Mais ce qui s'est passé en Libye, c'est encore beaucoup plus grave. C'est-à-dire que les États ont profité d'une résolution des Nations Unies qui était pour sauvegarder les populations civiles. Ils sont allés jusqu'à tuer un chef d'État, à renverser un régime. Et je pense que, bon, même si le régime de Muammar Kadhafi n'était pas démocratique, mais c'est pas comme ça qu'il fallait agir. Et je crois que il aurait été mieux que Muammar Kadhafi soit jugé plutôt qu'il soit assassiné comme ça a été le cas. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et nous avons un problème, c'est que l'Union africaine, c'est vraiment une coquille vide. Une coquille vide qui reçoit ce financement de l'Union européenne et de la Chine. Vous savez que le siège de l'Union africaine à Addis Abeba a été donné à l'Afrique par la Chine. C'est invraisemblable, c'est inadmissible parce que le pays africain pouvait se cotiser pour eux-mêmes ériger un siège.
Et effectivement, dans cette situation, le peuple africain, lui, se dit toujours prêt et se mobilise. Hein, et tout comme au Togo, où les manifestations de l'opposition sont aussi violemment réprimées par la police, dans la plupart des pays africains, dont également votre pays, le Congo. Hein. Alors décidément, Frédéric Molongo, la mobilisation de ces peuples africains n'arrive pas à faire fléchir ces régimes dictatoriaux en Afrique. Est-ce que pensez-vous vraiment que l'Afrique subsaharienne connaîtra un jour une vraie révolution, Frédéric Molongo?
Oui, mais je crois, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis très optimiste. Parce que il y a 30 ans, on ne pouvait pas penser que les choses allaient aussi vite. Vous savez ce qui s'est passé au Togo? Les femmes se sont dénudées contre un régime. C'est pour dire que les choses, vous savez, la nudité d'une mère, lorsqu'une mère s'est met nue en public parce qu'elle en a marre, etc., etc. Mais quelle malédiction! Quelle malédiction! Je pense que nous sommes vraiment en train d'avancer. Je pense véritablement qu'il y aura plus des pouvoirs qui vont se transmettre du père au fils comme ça s'est passé au Congo ou au Gabon. Je pense aussi que la population africaine est éveillée, elle comprend les enjeux et elle ne se laissera plus faire. Vous savez, la chance de l'Afrique, c'est aussi par rapport à sa diaspora, des Africains qui vivent à l'extérieur de leur pays d'origine, qui voient ce qui se passe dans les pays où ils vivent et qui ne sont pas prêts à accepter que l'Afrique continue à être à la traîne, alors que tout le monde dit que le continent, c'est un continent d'avenir. Mais le continent ne peut pas être un continent d'avenir sans les Africains. Donc il y a un minimum à avoir, il y a un respect à avoir, il y a beaucoup de choses à voir pour que l'Afrique aille de l'avant.
Merci. En tout cas, de toute façon, il nous faut encore beaucoup, beaucoup travailler pour que l'Afrique retrouve toute sa liberté et toute son autonomie et toute sa souveraineté. Merci beaucoup à Freddy Molongo, journaliste et écrivain qui vient de sortir son deuxième livre en France aux éditions Elle dit livre à Paris. Et Frédéric Molongo, merci d'avoir été l'invité de Fenêtre sur l'Afrique.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Merci de nous suivre en direct sur le TW Canal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Bien évidemment, nous sommes la voix des opprimés. Le 8 avril 2011 dernier, la disparition mystérieuse d'un jeune ingénieur camerounais, Tchamba Ngassa Melvin, à Pointe-Noire en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, autant pour moi. Cette disparition suscita de vives réactions au Congo, tout comme au Cameroun. Plusieurs tentatives de recherche sont restées vaines jusqu'à ce jour. Le jeune ingénieur camerounais des eaux, forêts et chasses a-t-il été victime d'un règlement de compte personne ne le sait. Alors, retrouvez Tchamba Ngassa Melvin, c'est le nom du collectif mis en place pour enquêter et retrouver le disparu. Et pour nous éclairer sur cette disparition, nous recevons tout de suite en ligne, en direct depuis la France, Monsieur Xavier Edjana, coordonnateur du collectif Retrouvé Tchamba Ngassa Melvin. Il est également ingénieur agronome de formation, ancien diplômé de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang au Cameroun. Et Monsieur Xavier Edjana, bonsoir.
Oui, bonjour Monsieur Amos.
Merci de nous éclairer sur cette disparition. Alors, comment avez-vous appelé la disparition au Congo du jeune ingénieur camerounais Tchamba Ngassa?
En fait, on a appris la disparition de notre collègue Tchamba Ngassa Melvin un mois plus tard dans le cadre de notre réseau Phase Alumni, parce qu'on n'avait pas été rapidement mis au courant. Donc, c'est après cette date qu'on a commencé à se mobiliser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement. C'était au Congo-Brazzaville et non au Congo RDC. Donc c'est bien au Congo-Brazzaville.
Merci beaucoup, merci pour l'information. C'est donc au Congo-Brazzaville.
Oui, tout à fait, dans la zone de Pointe-Noire.
Mmh, exactement.
Il avait été mis en mission par son entreprise Geospatial Technology Group, qui est également une filière au Cameroun, et ils étaient partis de Pointe-Noire le 6. Ils sont arrivés à Dolisi, comme ils devaient également former le personnel des entreprises partenaires de Geospatial Group. Ils se sont arrêtés, ils ont fini la formation, donc ils sont arrivés à Zanaga, qui est un district du département de la Likoumou, vers 19h30. Avec leur équipe, ils étaient trois, et ils ont été accueillis par l'équipe de leurs collègues qui séjournaient déjà à Zanaga. Ils ont dormi dans un motel. Vers 19h30, 20h, on leur a servi à manger. D'aucuns sont allés regarder la télé. Et notre collègue Tchamba, comme lui, se sentait fatigué, il allait se coucher directement après le dîner. C'est alors vers 22h, son cochambrier est rentré, qui était aussi un de ses collègues de la même société. Du retour du match, ils sont couchés, comme ils partageaient la même chambre. De 22h à minuit, son cochambrier dit qu'il serait sorti pour faire pipi 2 à 3 fois. Les latrines étant hors de la maison. Donc, il est sorti, il a laissé la porte entrouverte. Il est revenu. Bon, à minuit, son cochambrier s'est endormi. Et il dit que c'est vers 3h40 du matin, quand il s'est réveillé à nouveau, il est allé sur le lit, il n'y était pas, Tchamba Ngassa n'y était pas. Il s'est dit que bon, peut-être qu'il prend encore de l'air, la porte était entrouverte. Et jusqu'à 6h du matin, c'est en ce temps-là qu'il s'est réellement dit qu'il s'est passé quelque chose, il l'a signalé dans son absence. Donc c'est comme ça que passe son
disparition. Alors, rapidement, il y a un collectif qui est mis en place, le collectif Retrouver Tchamba Ngassa Melvin. Alors, vous êtes coordonnateur de ce collectif. Quelles sont les démarches entreprises par votre collectif au niveau des autorités congolaises, au Congo-Brazza et camerounaises également? Rapidement.
Au niveau du Congo-Brazzaville, on a porté une plainte contre l'employeur. L'ambassadeur du Cameroun au Congo a également saisi le procureur de Sibiti, qui est le chef-lieu de Likoumou. Et au niveau du Cameroun, nous avons saisi Interpol, le ministère des Affaires étrangères du Cameroun, qui nous ont dit qu'ils suivaient les enquêtes, mais il se trouve que depuis, nous n'avons plus de feedback. Et comme au Congo, il y a une loi qui dit que si quelqu'un disparaît 6 mois après, sans nouvelle, on considère la personne comme décédée. Et là, nous sommes à 18 mois sans nouvelles de Tchamba, donc la justice congolaise a classé qu'il se serait peut-être suicidé, mais il n'y a jamais eu de preuve, on n'a pas retrouvé de corps, ni ses habits, rien. Et ce qui est troublant aussi, c'est que son employeur, 2 semaines après sa disparition, était déjà en justice pour demander son certificat de décès. Donc on se pose quand même des problèmes, des questions, que si à quel but, juste 2 semaines demander un certificat de décès pour quelqu'un qui est perdu.
Merci beaucoup. Et merci beaucoup Xavier Ndjana, coordonnateur du collectif Retrouvé Tchamba Ngassa Melvin, le jeune ingénieur camerounais disparu au Congo-Brazza, au point noir au Congo-Brazza le 8 avril 2011. Espérons que vos efforts finalement vont aboutir à le retrouver. Merci d'avoir de nous avoir éclairé sur cette disparition du jeune ingénieur camerounais.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Les Togolais ont commémoré hier vendredi dans le sang le 22e anniversaire du soulèvement populaire. La manifestation conjointe organisée par le collectif Sauvons le Togo et la coalition arc-en-ciel dans le cadre du 5 octobre a été violemment réprimée par la police. Depuis des mois durant, le pouvoir togolais fait face à des vagues de manifestations de la population qui expriment leur ras-le-bol. Et si les manifestations pacifiques n'influent pas sur la politique du Togo, pourquoi le pouvoir de Fonia Singbe réprime avec la dernière rigueur ces mouvements de rue? C'est la question primordiale que se pose la majorité des Togolais, y compris ceux de la diaspora. Nous accueillons tout de suite en ligne en direct depuis Lomé notre correspondante Fabi Kwasi et qui nous fera le point sur la situation très critique au Togo. Fabi Kwasi, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Eh bien, Fabi, vous avez suivi pour nous hier la manifestation de l'opposition togolaise à Lomé, jour de la commémoration du 22e anniversaire du 5 octobre 1990, soulèvement populaire. Hein. Alors, comment s'est déroulée la journée d'hier à Lomé? Et on sait que les manifestations de rue des dernières semaines à Lomé explique largement que le Front social est également en ébullition au Togo. Alors certains syndicats annoncent même, semble-t-il, et pour des prochains jours, des grèves. Fabi Kwasi.
Dur, dur. En tout cas, Sylvain, les 22 ans de commémoration du soulèvement populaire du 5 octobre se sont déroulés dans la répression sauvage dont font montre à chaque fois les forces de l'ordre et de sécurité, occasionnant près d'une trentaine de blessés, des arrestations tous azimuts. Des journalistes ont été particulièrement la cible de la police et de la gendarmerie qui les ont menacés de confisquer leurs caméras si jamais ils filmaient leur barbarie. Si le confrère Francis Pedro Amouzou a eu la vie sauve grâce aux habitants de Baie, Justin, un ami que vous connaissez très bien dans ce programme, a été agressé selon plusieurs témoins par le commissaire Babarim qui lui a donné un coup de coude dans les côtes entraînant une perte de connaissance de ce dernier sur le champ. Il fut transporté à l'hôpital de Baie où il recouvrit connaissance quelques heures plus tard. Tout avait bien démarré quand même avec le dépôt de gerbes dans la lagune de Baie en hommage aux victimes de la démocratie. À peine le convoi s'est ébranlé qu'à la hauteur du marché de Baie, les grenades lacrymogènes ont commencé à pleuvoir. Tout le quartier a vécu dans un déluge de grenades lacrymo qui n'a pas épargné les jeunes, les vieux, les femmes et même les femmes enceintes et même un bébé de un mois qui furent évacués sur l'hôpital de Baie et d'autres au niveau de la Croix-Rouge togolaise. Plus grave, la police et la gendarmerie ont investi le domicile des gens, bastonnant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. 22 ans après, donc le 5 octobre, le régime de Gnassingbé père et de Gnassingbé fils a conservé son réflexe d'une autre époque, celui de massacrer sa propre population dans le seul but de conserver le pouvoir. Et bientôt, le père et le fils auront totalisé 50 ans de règne caractérisé par les tueries, les coups de force, les hold-up et les taureaux, les tripatouillages des tests et lois, les violations massives et récurrentes des droits de l'homme. Pour rappel, le 15 septembre 2012, les mêmes forces de l'ordre qui trouvent plaisir à massacrer les populations au Menu ont porté leur caution et soutien aux miliciens armés de machette et de gourdin clouté qui se sont pris aux militants des forces démocratiques. Aucun milicien n'a été arrêté jusqu'à ce jour, malgré la publication de leur nom Dumas parle collectif, selon le Togo, plutôt ils sont protégés par le régime de M. Faure. Mais ce vendredi 5 octobre 2012, la police et la gendarmerie togolaise ont trouvé subitement les moyens d'arrêter, de violenter des gens aux mains nues et de rentrer dans les maisons pour bastonner de pauvres innocents. Paradoxe, à quelques kilomètres de Bay, Dilkris Olympio, toujours en mariage avec M. Faure Gnassingbé, a animé au centre Césal en toute quiétude et sous haute protection une conférence sur le même 5 octobre, comme quoi au Togo de Gnassingbé II, certains ont le droit de tout faire et d'autres ont le droit et le devoir de subir la répression des plus forts. Au cours d'une conférence de presse ici, tenue à la suite de ces événements malheureux, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel ont condamné avec énergie cette répression sanglante et appellent le peuple à la résistance pour bouter dehors le régime de M. Faure Gnassingbé. Répression ou pas, le Togo reste sur une braise ardente avec des fronts un peu partout. Le sitting des centrales syndicales devant le ministère du Commerce suite à l'augmentation irresponsable de plus de 30% du prix du gaz butane. Les étudiants qui promettent des lendemains incertains aux autorités si les 19 des leurs exclus sur le campus de Kara ne sont pas réintégrés. Les femmes dont l'Agence nationale de renseignement a extorqué plus d'un milliard et demi de nos francs mettent en garde la Cour suprême. Si le droit n'est pas dit dans une semaine, vous allez nous entendre marteler l'une des victimes, Madame Tchoutcho Agbalé, qui a perdu 20 millions dans cette escroquerie d'État, sans oublier les enseignants toutes tendances qui menacent à la veille de la rentrée 2011-2012. Les fronts social et politiques sont donc en ébullition par ici. Seule solution que le régime a trouvée pour régler les problèmes, répression, répression et répression.
Fabi Kouassi, merci pour ces informations sur la politique très critique au Togo. Alors, l'affaire d'escroquerie internationale suit son cours également. L'ancien ministre togolais Pascal Boudjouna, impliqué dans cette affaire, est toujours curieusement gardé à la gendarmerie de Lomé et cela fait déjà plus d'un mois. Fabi, y a-t-il un nouveau rebondissement dans cette affaire?
Oui, tu l'as dit, c'est un autre front, en au moins en ébullition. L'affaire d'escroquerie dite internationale avec comme acteurs Bertin Agba, Pascal Boudjouna, Loïc Le Floch-Prigent et l'escroc plaignant Abassa Youssef. Une affaire qui met à rude épreuve la justice togolaise inféodée au pouvoir exécutif qui attend les consignes du prince avant de rendre ses verdicts et qui, se faisant depuis quelques semaines, étale ses tares devant le monde entier. Après la livraison par Alassane Ouattara du gros colis Loïc Le Floch-Prigent, SPDG d'Elf Aquitaine, présumé cerveau de cette escroquerie, et depuis la révélation de M. Prigent, le plaignant et ami des autorités togolaises Abassa Youssef a pris la peau d'escompète et ne donne plus signe de vie. Avec le rejet unique cette semaine du juge Kélouani de la demande de mise en liberté provisoire du français pour raison de santé, le Quai d'Orsay vient de s'inviter dans la danse et face au vice de procédure qui entache ce dossier, le Quai d'Orsay réclame le rapatriement de son citoyen qui souffre d'un cancer de la peau et qui va subir une opération, qui devrait subir une opération depuis le 26 septembre dernier. Le Togo de Faure sera-t-il plus fort que la France de Hollande? Faure Gnassingbé va-t-il remettre Loïc Le Floch-Prigent à la France sans que Bertin Agba, qui a été libéré sous caution depuis plus de 3 mois par la Cour suprême, reste maintenu à la prison de Tchévi au nord du prince? Pascal Boudjouna, qui visiblement se trouve dans les mailles de la gendarmerie pour cause de règlement de compte politique ourdi par son ami d'hier, selon d'autres officines, va-t-il s'en sortir? Difficile à dire, seules leçons à tirer avec l'intervention du Quai d'Orsay. Si le Togo démontre qu'il est incapable d'appliquer le droit et de rester conforme aux procédures judiciaires, démontrant ainsi qu'il n'a que faire de ses propres citoyens, la France compte protéger ses citoyens, fût-il escroc de première classe.
Fabi Kouassi, merci.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Le peuple togolais s'est souvenu hier du 5 octobre 90. Il y a 22 ans donc, commençait une lutte acharnée pour l'avènement de la démocratie au Togo. La lutte populaire est invincible. Eh bien, ce slogan de la plupart des partis politiques africains et le mouvement national des étudiants stagiaires du Togo, Monesto, l'ont compris au début de l'année 90. Ce mouvement intensifiait des protestations après une décision du gouvernement visant à suspendre le versement de toute bourse nationale à ceux qui manifestaient contre le régime. Des manifestants furent arrêtés. À la suite d'une réunion, le 2 avril 1990, l'étudiant Nayone disparut. Avocat et professeur fondait la Ligue togolaise des droits de l'homme. Le 20 juillet 90, cette ligue accuse l'État de procéder à des arrestations et à des actes de torture à l'encontre des activistes de la démocratie. Le 5 octobre 90, eut lieu le procès de deux étudiants, Doglo Agbelenko et Logo Dosuvi, condamnés à 5 ans d'emprisonnement pour fabrication et distribution de tracts mensongers. Des jeunes rassemblés devant le palais de la justice manifestèrent contre le verdict et exigèrent la fin de la dictature du président Yadema en scandant l'hymne « Terre de nos aïeux » interdite à l'époque. La manifestation s'est transformée en émeute, entraînant morts et blessés. Ce jour fut baptisé le « Vendredi noir », allusion faite aux fumées des pneus brûlés par les manifestants. Les arrestations des deux étudiants Doglo Agbelenko et Logo Dosuvi, puis leur procès, entraînaient des mouvements de rue, ce qui fut une première au Togo. Les deux étudiants quittèrent le Togo plus tard pour se réfugier dans les pays voisins. Il faut quand même rappeler qu'il y avait eu beaucoup de trahison dans les rangs des démocrates en début de ce qu'on pouvait appeler une révolution à l'époque. Aujourd'hui, 22 ans après ces événements, le Togo revit il y a quelques mois ces mêmes situations de violence à travers les manifestations pacifiques organisées par le collectif Sauvons le Togo et la coalition arc-en-ciel. Tino Doglo Agbelenko, jeune meneur d'un groupe d'étudiants chargé de distribuer des tracts anti-Eyadema qui a conduit au soulèvement populaire du 5 octobre 90, est l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Et bien exilé depuis près de 20 ans, Tino Doglo Agbelenko a accepté de répondre à nos questions en direct depuis l'Allemagne. Tino Doglo Agbelenko, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Amos.
Merci d'être l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Je viens de le dire, vous êtes l'un des acteurs du mouvement 5 octobre. Vous êtes aussi porte-parole du MO5, mouvement du 5 octobre. Alors, pour devoir de mémoire, Tino Doglo Agbelenko, pourriez-vous raconter brièvement à nos auditeurs ce que vous et vos collègues aviez vécu ce 5 octobre 90?
Je te remercie très vivement, Monsieur Amos, pour cette nouvelle occasion que tu m'offres sur un plateau d'or pour parler de cette mémorable journée du 5 octobre 90 et des tenailles aboutissants qui ont conduit définitivement à ce mouvement d'insurrection populaire pendant cette journée d'octobre 90. Mais avant tout propos, je voudrais, pour les auditeurs qui nous écoutent ou bien qui suivent cette édition en ce moment-ci, lever juste une équivoque qui pèse sur l'historicité, sur la véracité de ces événements depuis un certain nombre d'années. Bon, généralement, on entend toujours dire, et la même erreur a été répétée tout de suite, autant pour moi, on entend dire que Logo Dosuvi et Doglo Agbelenko étaient à l'époque des étudiants, ce qui n'est pas une vérité. L'exactitude des faits, c'est que nous avons été arrêtés avec un groupe de 11 étudiants qui étaient eux autres encore étudiants sur le campus de l'université de Lomé. Par contre, Logo Dosuvi, mon compagnon Logo Dosuvi et moi-même, nous étions déjà en pleine activité salariale. Moi, j'étais employé de commerce à la S3G au Togo à l'époque de notre arrestation. Mais il est vrai, nous étions de très 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 bonne intelligence avec ce groupe d'étudiants nous avons travaillé ensemble pour confectionner des documents, des tracts, comme on les appelle, pour informer la population du Togo, de l'intérieur et des villes et de la capitale sur tous les travers, sur tous les mensonges et sur toutes les manipulations qui étaient portées à notre connaissance et dont nous avions connaissance. Donc notre mission à l'époque, c'était de mettre à nu le régime mensonger, prédateur, manipulateur et pillard du général Eyadema. C'était la mission que nous nous étions assignée de bonne intelligence avec ce groupe d'étudiants. Voilà. Bon, maintenant, pour continuer mon propos, je voudrais me saisir de votre antenne pour rendre mon hommage très appuyé à toutes les victimes, aux blessés, aux personnes mutilées dans leur chair et dans leur âme au cours de cet événement mémorable. Ensuite, je ne manquerai pas ici d'adresser une pensée fort respectueuse et un salut patriotique et militant pour l'énorme mobilisation qui a marqué la journée du 5 octobre hier à Lomé. Je salue la mémoire de toutes ces victimes et je respecte de façon militante et patriotique toutes les personnes, tous les cerveaux et toutes les personnalités qui ont organisé le 22e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre.
Mmh. Et Tino Doglo Agbilinko, et malheureusement, et le 22e anniversaire du 5 octobre a été encore célébré dans le sang puisque les manifestations ont été réprimées dans le sang. C'est ce que nous a rapporté notre correspondante Fabi Kwasi tout à l'heure. Alors, Logo Dosuvi, l'un de vos camarades de lutte, est retourné au Bekaï après plusieurs années de bataille en exil. Certaines informations font croire qu'il s'est accoquiné avec le pouvoir en place, qu'il a après relâché. Et qu'est-ce qui explique, par contre, votre refus de rentrer au Bekaï et également votre détermination pour cette lutte démocratique au Togo?
Bon, je dois indiquer que je ne suis pas l'âme ni la conscience de mon compagnon et mon ami Logo Dosuvi. C'est vrai, j'ai été au départ extrêmement choqué, extrêmement déçu, extrêmement meurtri de savoir que il considérait que le changement que nous pour lequel nous étions battus était enfin arrivé et que il avait pris apparemment fait et cause pour le président Faure Gnassingbé qui a été placé juste au pouvoir après la mort de son papa, dans les circonstances de violence inouïe que nous connaissons tous. C'est vrai, l'histoire se fait, la roue de l'histoire tourne, mais l'appréciation des événements peut fluctuer par moments. Et je crois que mon ami Logo Dosuvi a peut-être de bonne foi pensé que en prenant les bonnes paroles du nouveau gouvernement Omo, avait certainement dû penser que l'équipe qui arrivait était prête à conduire le pays dans des efforts significatifs et à opérer un changement notable dans le cours de la politique du pays. Mais au jour d'aujourd'hui, 10 années après la prise de pouvoir sanglante du président Faure et Gnassingbé, nous nous rendons compte que l'intention n'est pas du tout de paver la voie pour un changement démocratique dans notre pays, mais l'intention de s'assurer, c'est l'intention de s'assurer un pouvoir pérenne, de rester éternellement au pouvoir comme l'a fait son géniteur de papa. Bon, donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, passer le choc qui a suscité ce revirement de mon compagnon, nous avons quand même eu le courage de nous parler. Et je peux peut-être certainement penser au jour d'aujourd'hui qu'avec un peu de recul, il a pris le pouls de la situation et il doit quand même peut-être au jour d'aujourd'hui revenir à d'autres sentiments, c'est-à-dire pouvoir interpréter l'actualité politique du, de notre pays au jour d'aujourd'hui.
Bien
de
sûr.
Façon différente.
Mmh. Et Tino Doglo Agbelenko reste toujours en ligne, en direct avec nous depuis l'Allemagne. Notre collaborateur Lucien Moukanli est du site d'information 3xwtogo-online.co.uk est également en ligne en direct depuis l'Angleterre, et également pour vous soumettre quelques questions. Lucien Moukanli, encore une fois, merci et bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir Tino, bonsoir Amos. Je voudrais d'abord saluer la mémoire et puis ceux qui ont été victimes encore hier de cette répression. Et sans embâche, je vais directement à ma question. Tino, cher ami, est-ce que j'ai l'impression que vous-même, depuis que vous êtes en exil, votre détermination et le sens de votre engagement est un peu atténué, pour ne pas dire ébranlé. Pourquoi ?
Bon, voilà. Vous venez là de toucher au cœur d'un problème que tous les combattants de la liberté connaissent, suivant qu'ils se trouvent sur le terrain initial de leur engagement ou qu'ils se retrouvent en exil, vous savez. Et moi, personnellement, je n'ai jamais renoncé à ma conviction de démocrate. Je suis quelqu'un qui vit dans une conviction ancrée que le bien-être de notre pays doit être l'œuvre de chacun de ses citoyens. J'ai connu mon engagement politique au plus fort des années 90, mais depuis, les péripéties de la vie m'ont conduit en terre d'exil. Vous savez les conditions de l'exil. Ce n'est plus exactement les mêmes situations qu'au pays. Ici, les réalités sont différentes. Il y a la famille, il y a les charges, il y a les obligations de la vie de manière générale. Bon, maintenant, il y a aussi l'âge. Et puis, dans ma philosophie à moi, je valorise toujours l'idée de relève. Et je suis de ceux qui pensent que la lutte doit être multiforme, mais elle doit connaître la dynamique de nouvelles couches qui se lèvent et qui reprennent le flambeau. D'une manière ou d'une autre. Bon, voilà l'explication que je peux peut-être apporter à votre question. Mais pour le reste, je demeure à ma manière actif, peut-être pas de façon aussi visible, je n'ai peut-être plus la même visibilité que dans le temps, mais de ma façon, d'une façon modeste et toujours permanente, je continue, je contribue à porter la lutte. Toujours. Mmh. Je n'ai jamais renoncé.
Mmh. On va y revenir parlant de la lutte démocratique ou votre détermination, même depuis l'Allemagne. Et Lucien Moukanli, je vous laisse poser la dernière question puisque le temps est malheureusement contre nous. Lucien Moukanli.
Oui, je voudrais demander à mon cher ami, malgré que son... Dans l'introduction tout à l'heure, avec son intervention, le Godo Civi, son nom revenait souvent comme son acolyte. Est-ce que, Tino, vous ne pensez pas être mauvais perdant, par exemple, quand le Godo Civi, lui, a préféré rentrer au bercail et s'acoquiner avec le pouvoir, où nous savions tous, au moment où nous tous sommes des réfugiés actuellement, nous savions tous, c'est un peu difficile de rester en partie très éloigné de son pays natal, de ses parents, de ses amis, coupé des racines culturelles et en but de toutes sortes de brimades.
Oui, mais mauvais perdant en quoi? Je n'ai peut-être pas très bien saisi cette optique de la question que vous venez de formuler. Moi, je suis là.
Oui.
Je suis là. Je demeure un citoyen togolais. Hein? Je suis mon engagement, je maintiens mes convictions et je vis ma vie. J'estime que le Togo doit avoir la chance de devenir une démocratie. C'est pour cela que nous nous sommes engagés au jour d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas encore affirmer que ces desiderata que nous avons poursuivis et que ces vœux que nous avons formulés pendant toutes ces dernières années ont été traduits dans la réalité. Donc pour moi, il n'est pas question d'être un perdant. Je ne suis pas un perdant. Par contre, pour revenir encore au rôle que a joué le Godo Suvi, quel que soit, j'aimerais aujourd'hui apporter une précision à son sujet et dire que le Godo Suvi, bon, quel que soit le positionnement qu'il a au jour d'aujourd'hui, malencontreusement,
quel que soit le positionnement malencontreux qu'il a pris aujourd'hui ou bien qu'il a pris dans les temps derniers, il demeure quand même une figure de l'histoire de notre pays pour le rôle qu'il a joué, peut-être le rôle le plus déterminant dans le cours de l'histoire.
Mm-hmm.
Et il aura toujours sa place dans l'histoire du Togo,
bien
quoi
sûr,
qu'il arrive. Hein.
Mm-hmm.
Voilà.
Et Tino Dogoulak Belinko, on va quand même parler de cette mobilisation au Togo. Le peuple exprime son ras-le-bol depuis plusieurs mois à travers les manifestations de rue du collectif Sauvons le Togo, également de la coalition Al-Karchiel. Le pouvoir également ne veut pas céder à leurs revendications. Y a-t-il un parallèle entre les mouvements du 5 octobre 90 et les manifestations de rue qui s'intensifie actuellement au Togo? Alors, quelles leçons finalement tirées du mouvement du 5 octobre, Tino Dogoulak Belinko?
Eh bien, je dirais que le 5 octobre a été le mouvement qui a été le mouvement détonateur, qui a sonné le tocsin de la fin du système de la manipulation de conscience industrielle qu'on a connu sous le régime de Yadema. Au jour d'aujourd'hui, quel que soit les déboires qui ont été connus, il y a eu véritablement des sacrifices. Les sacrifices ont été énormes. Perdre des dizaines, nos martyrs se comptent par dizaines de milliers. Les existences de nos compatriotes ont été explosées. Les familles ont été détruites. Notre pays est aujourd'hui divisé et méconnaissable, laissé dans un état de délabrement avancé par le pouvoir aux abois. C'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, nous notons une prise de conscience générale qui est très avancée. Et c'est ça la condition fondamentale, la condition de base. C'est là un des fondamentaux de tout changement politique de fond. Lorsque la prise de conscience est totale et généralisée, ça constitue alors le ciment à tout changement positif à l'avenir. Bon, voilà, pour moi, c'est l'atout principal ou bien le gain principal que nous avons pu capitaliser depuis le mouvement du 5 octobre 1990. Parce que les populations aujourd'hui ne sont plus laissées à la merci du régime qui leur raconte des bobards et leur fait passer des vessies pour des lanternes. Au jour d'aujourd'hui, tous les Togolais savent le prix que vaut la liberté. Ils savent dans quelle direction exactement ils veulent aller. Ils savent que le pays doit être gouverné par des dirigeants qu'ils ont élus eux-mêmes, des dirigeants de leur choix. Voilà la donne aujourd'hui. Bon, donc, le parallèle à établir, voilà, le 5 octobre a permis aux Togolais de pouvoir prendre leur propre destinée en main. Voilà.
Est-ce que vous pensez également que cette diaspora, dont également vous êtes un membre influent, est-ce que vous pensez que cette diaspora est assez mobilisée? Puisque aujourd'hui, il est clair et que les Togolais ont compris finalement que seule la mobilisation peut faire fléchir ce régime. Mais on note quand même une faible mobilisation des Togolais à l'étranger et pour créer une structure solide afin de s'asseoir quand même sur une même table pour la cause démocratique au Togo. Qu'est-ce qui explique selon vous ce phénomène et comment faire pour y remédier? Ce sera ma dernière question, Tino Agbelenko.
Bon, voilà, pour revenir sur le rôle de la diaspora, je dirais que la diaspora sera à l'image de l'opposition interne, puisqu'elle n'en est que le reflet, au fait. Bon, si de l'intérieur, les forces démocratiques restent unies, fortes et structurées et parviennent à poursuivre des objectifs communs qui sont cohérents, la diaspora togolaise saluera naturellement cette nouvelle donne positive et elle œuvrera pour se remettre en ordre de bataille elle aussi. Ce que nous avons vu ici pendant les 20 dernières années nous a révélé que les compatriotes à l'étranger, on reproduit tout simplement les mêmes schémas partisans et toutes les querelles de personnes et les divisions que cela comportait. Bon, au jour d'aujourd'hui, avec la donne qu'il y a au pays, il faut indiquer que la nouvelle configuration que présente l'opposition togolaise aujourd'hui nous réjouit tous. Et que si l'opposition continue par afficher cette union, ça fera effet boule de neige et que la diaspora, évidemment, ne pourra que la suivre. Donc cette diaspora va pouvoir aussi se muer en véritable cheval de bataille pour pouvoir accomplir les tâches qui sont les siennes. Par exemple, constituer un relais diplomatique, jouer pleinement son rôle de porte-parole pour expliquer les positions de l'opposition, porter ses messages et expliquer dans le fond aux interlocuteurs qui sont à l'étranger, qui s'intéressent aussi un peu au sort des Togolais. Et on va pouvoir les approcher pour leur expliquer les enjeux qu'il y a véritablement, pour qu'ils connaissent vraiment le fond du problème.
Merci. Voilà. Merci. Donc, allez-y, encore 30 secondes.
En dehors de ça, vous savez que la diaspora, c'est la pompe financière du pays, avec la misère qui s'est généralisée, la pauvreté qui tutoie des sommets dans notre pays, le chômage qui a atteint un niveau jamais égalé. Donc, nous sommes la pompe économique du pays et c'est à cause de nous, ou bien c'est grâce à nous que dans certaines familles, les enfants continuent pas poursuivre leur scolarité et tout ça, que les parents peuvent se soigner.
Merci. Merci. Merci, merci infiniment, Tino Doglo Agbelenko, l'un des acteurs du mouvement 5 octobre, de nous avoir éclairé et retracé l'histoire de ce premier soulèvement populaire au Togo. Merci d'avoir été l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique.